VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, 18h30 TU, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 3 mai 2017. John Lyndon en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Au sommaire ce soir, au Nigeria, nouvelle interrogation sur la santé du président Muhammadu Buhari, à nouveau absent au Conseil des ministres. Journée internationale de la presse, état des lieux en Afrique, nous évoquerons dans ce journal les cas du Burundi, du Rwanda et de la RDC.
Nous avons observé un recul inquiétant de la liberté de la presse en RDC. Nous demandons aux autorités de respecter la liberté de la presse.
Mahmoud Abbas est à la Maison Blanche. Il a tenté de relancer avec le président américain les négociations de paix israélo-palestinien actuellement dans l'impasse. Et puis nous retrouverons Bagassi Koura à la fin de ce journal pour les sports et Abdourahmane Dia pour la Minute Éco. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. De nouvelles interrogations sur la santé du président nigérien Muhammadu Buhari ne s'est pas présenté aujourd'hui au Conseil des ministres pour la troisième fois consécutive. Cette absence relance une fois encore les inquiétudes sur son état de santé, malgré les déclarations rassurantes de son épouse, Jacques Aristide.
Aïcha Buhari écrit sur Twitter que son époux continue à remplir ses devoirs pendant toute cette période et que son état de santé n'est pas aussi grave que ça en a l'air. Pourtant, le président de 74 ans ne s'est pas non plus rendu à la mosquée pour la prière hebdomadaire vendredi dernier, ni au mariage de l'un de ses petits-fils samedi. Le porte-parole du chef de l'État avait déjà assuré que Muhammadu Buhari travaillait depuis la maison et qu'il avait besoin de se reposer après son traitement en Angleterre, sans donner de précision sur la nature de sa maladie. Des membres de la société civile nigériane demandent au président de se mettre en congé, car pour eux, ses problèmes de santé ne lui permettent plus de diriger le pays. De nombreux hommes politiques de l'opposition et du parti du président se sont également inquiétés du blocage que pourrait causer son absence des affaires s'il ne délègue pas son pouvoir au vice-président comme le prévoit la Constitution. C'est justement son adjoint Yemi Osinbajo qui a siégé à la tête du conseil hebdomadaire ce mercredi, après avoir assuré l'intérim de la présidence pendant plus de 8 semaines lors du congé médical de Buhari à Londres.
Par ailleurs, selon des sources sécuritaires, Aboubakar Tchekao, chef du groupe Boko Haram, a été blessé et l'un de ses adjoints tué par un bombardement aérien dans le nord-est du Nigeria. Deux avions ont bombardé des combattants en prière vendredi dernier dans Bala, un village en lisière de la forêt de Sambisa. Dans le passé, les autorités ont déjà annoncé au moins à 3 reprises la mort de Tchekao. L'armée ivoirienne va envoyer pour la première fois une unité combattante de 150 soldats au Mali qui rejoindra la force de l'ONU à Tombouctou, a annoncé ce mercredi le général Touré Sékou, chef d'état-major des armées. La Côte d'Ivoire, qui sort d'une décennie de crises politiques internes, veut à nouveau jouer un rôle majeur en Afrique de l'Ouest. L'opération militaire française contre les djihadistes à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso n'est pas terminée, a affirmé hier à Ouagadougou le commandant de la force Barkhane, le général français François-Xavier de Wallemont. En République démocratique du Congo, les évêques catholiques ont recommandé dans un rapport au président Joseph Kabila d'autoriser Moïse Katumbi à rentrer librement au pays. Arzuma Compaoré.
Ce rapport a été remis au président Kabila le 29 mars et l'AFP a obtenu une copie. La Conférence épiscopale nationale du Congo plaide dans ce document pour le retour de Moïse Katumbi, un homme libre en RDC, afin d'exercer ses droits civils et politiques. Par conséquent, la CENCO souhaite le retrait du mandat d'arrêt contre l'opposant en exil et candidat déclaré à la présidentielle. Ancien allié du président Joseph Kabila, passé à l'opposition en septembre dernier, M. Katumbi a été condamné à 3 ans de prison pour spoliation d'immeubles appartenant à un citoyen grec. Il attend, par ailleurs, de comparaître devant la justice pour une affaire de recrutement de mercenaires. L'épiscopat estime que les actes et pièces pour lesquels Katumbi est mis en cause sont fabriqués et qu'il s'agit plutôt de règlement de compte purement politique.
Au Niger, les 13 membres de la commission chargée d'enquêter sur le décès d'un étudiant sur le campus universitaire de Niamey ont prêté serment aujourd'hui devant la cour d'appel. À Niamey, les étudiants avaient lancé le 10 avril un important mouvement de protestation pour réclamer de meilleures conditions de vie et d'études. Au cours d'affrontements avec les forces de l'ordre, un étudiant a été décédé dans des conditions restant à élucider. 8 migrants, dont 5 enfants, ont été retrouvés morts dans le désert nigérien alors qu'ils tentaient de se rendre en Algérie voisine, devenue une destination privilégiée pour les migrants subsahariens. Les personnes décédées sont toutes des Nigérians et ont été abandonnées par un passeur. Sans secours et sans repère, ils sont tous morts de soif, a expliqué la source sécuritaire. Les enfants décédés sont âgés de 6 à 12 ans, selon cette même source. Le gouvernement kényan fait preuve depuis 4 ans d'une hostilité envers les défenseurs des droits de l'homme, selon le rapport conjoint de plusieurs ONG à l'approche des élections générales du 8 août. Intitulé « Élections 2017, les promesses brisées mettent les défenseurs des droits de l'homme en danger », le rapport détaille sur 50 pages les violences ou pressions dont sont victimes les acteurs de ce secteur au Kenya. Journée internationale de la liberté de la presse, l'accès à certains sites d'information, d'opinion et de réseaux sociaux, dont Facebook, est toujours interdit en Guinée équatoriale depuis près de 4 ans. Un virus informatique, selon les autorités équato-guinéennes, aurait été responsable de ces blocages sélectifs depuis le 10 mai 2013, peu de temps après l'annonce d'une marche d'étudiants et à 16 jours d'élections législatives. Un collectif d'ONG tunisiennes et internationales a mis en garde contre un recul de la liberté de la presse et de la liberté d'expression dans l'unique pays rescapé du printemps arabe, 6 ans après la chute de la dictature. Le gouvernement tunisien n'a pas eu de cesse ces dernières semaines de resserrer l'étau sur la presse, affirment ces 25 associations dans un communiqué publié notamment à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Donc.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Mahmoud Abbas, à la Maison-Blanche, le président des États-Unis, Donald Trump, a accueilli le leader de l'autorité palestinienne pour une première rencontre visant à préparer une possible relance des négociations de paix sur le conflit au Proche-Orient. Abbas a évoqué l'espoir d'un traité de paix historique sous la présidence Trump. Le point avec Timothée de Narmaï.
Recevant pour la première fois le leader palestinien à Washington, le président Trump a exprimé sa volonté d'aider les Israéliens et les Palestiniens à parvenir à la paix. Le chef de l'exécutif américain a réitéré son attachement à une solution à 2 États. Pour y parvenir, il s'est proposé d'être un médiateur, un arbitre ou un facilitateur d'un processus qui mènerait à la paix.
We want to create peace. Between Israel and the Palestinians.
Nous voulons créer la paix entre Israël et les Palestiniens, a-t-il déclaré, ajoutant, il ne peut y avoir de paix durable si les dirigeants palestiniens ne condamnent pas à l'unisson les appels à la violence et la haine. Le président Trump n'a pas donné de détails sur la démarche qu'il compte adopter pour parvenir à la paix. S'exprimant par le biais d'un interprète, le président palestinien Mahmoud Abbas a, de son côté, déclaré que les Palestiniens sont engagés pour un accord de paix qui créerait 2 États séparés sur la base des frontières de 1967.
Par ailleurs, des milliers de Palestiniens ont manifesté aujourd'hui au pied de l'immense statue de Nelson Mandela à Ramallah, en Cisjordanie occupée, en soutien aux milliers de détenus en grève de la faim dans les prisons israéliennes. Le leader de cette grève, Marwan Barghouti, surnommé le Mandela palestinien, a été condamné à perpétuité par Israël pour son rôle dans la seconde intifada. En Afghanistan, un attentat revendiqué par le groupe État islamique a frappé aujourd'hui un convoi blindé de l'OTAN dans le centre de Kaboul, faisant au moins 8 morts et 28 blessés, dont 3 soldats étrangers. Anastasie Tudiech.
Le groupe État islamique a revendiqué l'attentat via son agence de propagande Hamak. Selon des témoins, les militaires étrangers circulaient à bord de véhicules blindés conçus pour résister à de fortes explosions. Cette attaque intervient quelques jours après l'annonce par les talibans du lancement de leur offensive du printemps. Ils ont de plus menacé de s'en prendre aux troupes étrangères. Pour l'expert afghan Ahmad Mouradi, que l'attaque ait été menée par le groupe État islamique ou par les talibans, le résultat est le même. Cela épuise le gouvernement et les forces forces de sécurité. Les États-Unis, qui ont chassé les talibans en 2001, sont depuis engagés dans une longue guerre contre les djihadistes en Afghanistan.
Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Voilà, place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Abdourahman Dia.
Total fait son entrée dans le marché de la prospection pétrolière au Sénégal. Dakar et le groupe pétrolier français ont signé deux accords portant sur la concession de deux blocs d'exploration au large de Dakar. Kosmos Energy, une compagnie américaine qui bénéficie déjà d'une concession sur les côtes sénégalaises, a annoncé la découverte à la frontière maritime du Sénégal et de la Mauritanie de gisements de gaz naturel d'une capacité estimée à 140 milliards de mètres cubes. L'exploitation devrait commencer dans 3 ou 4 ans. Ouverture aujourd'hui à Durban, en Afrique du Sud, du Forum économique mondial pour l'Afrique. Et à cette occasion, l'organisation African Media Agency annoncera ses personnalités 2017 dans la catégorie business et entrepreneuriat. 76 personnes basées en Afrique ou dans la diaspora seront honorées pour la réussite de leurs entreprises, leurs réflexions innovantes et leur engagement dans la promotion de la diversité et l'inclusion. Un rapport publié par le groupe de réflexion basé à Washington, Global Financial Integrity, révèle que les flux de capitaux illicites dans les économies en développement sont passés de 2 000 milliards à 3 500 milliards de dollars en 2014, selon le document rendu public à la veille du Forum économique mondial sur l'Afrique à Durban. Le continent africain représente la région la plus vulnérable aux mouvements illégaux de capitaux.
Une musique qui ne trompe pas, nous sommes en sport et nous accueillons Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir John, bonsoir à tous.
Et on commence par le football, demi-finale de la Ligue des Champions, Monaco face à la Juventus.
Oui, c'est tout à l'heure, hein, disons les perceurs contre le coffre-fort, c'est aussi les 146 buts marqués par Monaco en 57 matchs qui font face à la meilleure défense d'Europe. Analyse des forces en présence avec Hervé Penaud du journal L'Équipe.
Favori, inévitable, c'est la Juventus, qui paraît même peut-être l'équipe la plus forte du dernier carré. C'est une équipe qui n'encaisse aucun but, qui a été façonnée pour gagner cette Ligue des Champions, déjà quasiment assurée de gagner le championnat d'Italie, avec un Monaco qui vient en outsider, évidemment, parce que personne ne s'attendait à voir Monaco être là. Mais Monaco, qui est capable de tout. Monaco, c'est une équipe qui, offensivement, a des atouts incroyables, avec le jeune Mbappé, qui va peut-être devenir l'une des grandes stars du football mondial, avec Lemar sur le côté gauche, dont on parle un petit peu moins, mais qui a un type phénoménal avec un pied gauche incroyable. Falcao qui fait une magnifique saison. Une défense solide, mais qui n'est peut-être pas exceptionnelle. Et c'est ce qui va peut-être poser des problèmes dans cette double confrontation. Parce que la Juve a l'habitude de ces matchs de très haut niveau, a des hommes qui ont déjà maîtrisé ce type de rendez-vous, ce qui n'est pas le cas de Monaco. Il va manquer peut-être un peu d'expérience, car c'est une équipe très jeune.
Voilà notre confrère Hervé Penaud du journal L'Équipe.
Première demi-finale en Ligue des Champions hier, Real a remporté le derby madrilène.
Oui, 3-0, 3 buts de Cristiano Ronaldo. L'Atlético n'a pas résisté au merengue au Santiago Bernabéu. Le match retour est attendu le 10 mai à l'antique Vicente Calderon.
Ligue Europa, l'Ajax recevait l'Olympique Lyonnais.
Oui, avec un score sans appel de 4-1 pour le club de la capitale néerlandaise qui prend là une option sérieuse avant le match retour en France. John, est-ce que vous connaissez Bertrand Traoré?
Oui.
Alors, c'est un étalon. Eh bien, il est auteur ce soir d'un doublé. C'est d'ailleurs lui qui a ouvert le score dès la 25e minute pour l'Ajax. Lyon n'a jamais battu, il faut le rappeler, l'Ajax en Coupe d'Europe.
Voilà, enfin, on finit par la NBA.
Oui, la NBA, c'est le championnat de basketball nord-américain. En demi-finale hier soir de la Conférence Est, défaite hier soir donc de Washington, 119 à 121, face aux Celtics de Boston. Boston qui mène désormais 2-0 la série de 7 dans la Conférence Ouest. Victoire de mon équipe, John, Golden State Warriors, 106 à 94, c'était contre Utah. Il faut dire que Golden State mène la série 1-0. Je ne sais pas quelle est votre équipe. Vous supportez Washington comme
tout à fait, Bagassi.
Lionel.
Mais oui, merci Bagassi, c'était les sports.
Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Cap à présent au dossier du jour. C'est aujourd'hui la journée mondiale pour la liberté de la presse. Dans plusieurs pays africains, la presse est souvent menacée par le pouvoir en place. Beaucoup de médias sont fermés, des journalistes emprisonnés, obligés de partir en exil s'ils ne sont pas tués. Pour un état de lieu en République démocratique du Congo, Solange Nyamulisa a joint Evie Franck, chercheur à Amnesty International.
Nous avons observé un recul inquiétant de la liberté de la presse en RDC. Nous avons documenté plusieurs cas de journalistes qui ont été arrêtés arbitrairement, dans certains cas même tabassés, humiliés. Une situation qui nous inquiète, surtout aussi que nous avons vu beaucoup de coupures d'Internet sur des moments clés. De plus en plus de maisons de médias ont été fermées, notamment le signal de Radio France Internationale, maintenant coupé depuis novembre 2016.
Qu'est-ce que vous demandez aux autorités de la RDC?
Nous demandons de réouvrir ces médias qui restent fermés arbitrairement. Notamment, le gouvernement a pris l'engagement de réouvrir ces médias en application de l'accord politique qui a été signé le 31 décembre. Mais jusqu'aujourd'hui, ces médias restent fermés et aussi de respecter le travail des journalistes.
La RDC est placée 154e sur 180 selon le classement des Reporters sans frontières. Qu'est-ce qui explique ces reculs?
Ce recul est inquiétant, c'est la plus mauvaise score pour la RDC depuis 2002. Ce recul arrive dans un contexte de crise politique et sécuritaire. Pour nous, il s'agit vraiment d'une tendance pour garder la population dans l'ignorance. Nous demandons aux autorités de reverser cette tendance et de respecter la liberté de la presse.
En ce qui concerne le Rwanda et le Burundi, selon Nyamulisa a joint Rachel Nicholson d'Amnesty International.
Pour commencer par le Rwanda, ces années, nous avons remarqué moins de violations de la liberté de la presse, mais cela ne démontre pas qu'il y a une vraie liberté de la presse au Rwanda. Le nombre de journalistes critiques qui ont fui le pays, mais aussi par autocensure, par exemple, au cas de Jean-Léonard Kretchenbagé, qui a été tué en 2010, deux mois avant les élections. Nous attendons toujours la justice pour ce crime.
Et qu'en est-il du Burundi?
Pour le cas de Burundi, ça reste toujours très grave. Les trois radios privées qui ont été fermées au début de la crise sont presque toujours fermées. Il y en a une qui est réouverte, mais pas toujours très libre dans le travail et qui subissent toujours des convocations par le service de renseignement national. La disparition du journaliste Jean Bigirimana en juillet 2016. Nous n'avons encore pas des rapports de ce qui s'est passé. Donc, globalement, c'est une situation très grave pour les journalistes au Burundi, et pas seulement pour les journalistes burundais, mais aussi pour les journalistes étrangers. Ça devient de plus en plus difficile d'avoir des visas.
Rachel Nicholson, chercheur à Amnesty International.
Dans Washington Forum ce jeudi, la journée mondiale de la liberté de la presse. Après les baisses d'audience parmi les médias traditionnels, la diminution des profits et les allégations d'une déconnexion croissante entre les médias et leur public, la prolifération des fausses informations et les faux reportages sont les défis les plus récents auxquels fait face le secteur. Où en est la liberté de la presse à travers le monde? Comment défendre l'indépendance des médias? Ou comment se portent les médias dans votre pays? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 20h temps universel avec Timothée Denangmaï et ses invités.
Les réfugiés rwandais installés au Congo-Brazzaville ne bénéficieront plus de ce statut dès le 31 décembre 2017. Les gouvernements du Congo et du Rwanda, en partenariat avec le HCR, travaillent sur cette échéance. Mais dans la communauté des réfugiés rwandais, souligne notre correspondant Gwilan Goussou, la majorité des réfugiés ne veut pas de cette mesure qui les incite à rentrer et déplore qu'on continue de commémorer l'anniversaire du génocide des Tutsis et pas celui, dit l'un d'entre eux, des Hutus.
Vous êtes sans ignorer, vous êtes actuellement en train de célébrer le génocide pour la 23e fois. Et c'est le génocide des Tutsis. À quel moment est-ce qu'on va célébrer le génocide des Hutus? Et donc, les réfugiés ont peur d'aller dans un pays où ils n'ont pas le droit.
Ces propos d'un jeune réfugié rwandais résument l'angoisse et les dépit qu'il suscite au niveau des réfugiés rwandais le fait d'entendre qu'ils perdraient, à partir du 31 décembre 2017, leur statut. Le HCR l'a confirmé et y travaille même déjà. Mohamed Nafian est le chef de bureau du HCR à Bétou, au nord du Congo, où on compte quelques 1979 réfugiés rwandais.
Cette année surtout, nous sommes très sûrs qu'il y a une clause de cessation des réfugiés rwandais qui va prendre effet à partir du 1er janvier 2018. C'est-à-dire d'ici le 31 décembre 2017, les Rwandais n'auront plus le statut de réfugiés, soit le rapatriement, que le HCR pourrait faciliter.
À Brazzaville, les réfugiés vivent cela comme un harcèlement. L'étudiant Patrick Mataboro n'en veut même pas en entendre parler.
Vous voyez que les réfugiés se trouvent dans des situations inconfortables à cause de ce qui se trouve, de ce que le Rwandais est en train de faire. Donc, qu'il affiche la paix aux réfugiés rwandais, qu'il laisse les réfugiés rwandais vivre en beauté, dans leur sécurité. Donc, c'est ça ce qu'on demande.
Marie-Claire Niramaoro revient sur le calvaire vécu pendant la fuite du génocide en 1996.
Nous avons peur de retourner chez nous parce que le pays que nous avons fui n'a toujours pas organisé de dialogue. Pendant notre fuite, nous avons vu dans les forêts de RDC comment les réfugiés rwandais, les Hutus en majorité, ont été pourchassés et massacrés par le FPR. Malgré tout ce qu'ils nous ont fait subir, ceux-là qui nous ont tués nous demandent aujourd'hui de rentrer au pays.
Luamba Moké, président de la DUC, une ONG locale, appelle le Congo et le Rwanda à abandonner ce projet. Dépassé un mois, dit-il, il saisira la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.
À la fin de l'année 2017 et au début de 2018, que ce soit effectivement des personnes qui vont devenir des migrants clandestins et en leur qualité de migrants clandestins, ils vont être expulsés. Voilà, nous craignons cela. Et en ce moment, nous allons saisir la Commission africaine des droits des peuples pour que la Commission puisse prendre autorité sur cette question-là.
Docteur Eric Ndayishimiye, un autre réfugié rwandais, refute ce qui s'est dit dans les rues de Brazzaville, que les réfugiés rwandais se sont enrichis ici et ne veulent plus rentrer chez eux.
Même ceux qui ont ces moyens-là ne veulent pas rentrer. Aujourd'hui, nous n'avons pas de cartes pour déposer cet argent en banque. On dit vos cartes ne sont pas acceptées. Pensez-vous que nous sommes vraiment... cette situation nous plaît? Non, pas du tout.
En tout cas, les jours s'égrènent, les deux gouvernements et le HCR ont en main leur agenda. Nguila Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien, 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, sur 93.1 FM.
Suite de notre série de reportages sur la situation humanitaire autour du lac Tchad, parlons cet après-midi des déplacés tchadiens qui ont fui les attaques de Boko Haram dans les îles. Beaucoup ont trouvé refuge autour de Bagassola. C'est là que s'est rendu Nicolas Pineau, l'envoyé spécial de VOA Afrique au Tchad. Voici son reportage.
Assis sur des nattes, posés sur le sable brûlant, ces déplacés tchadiens attendent. Attendre, c'est leur activité principale dans ce camp situé à quelques kilomètres à la sortie de Bagassola. Attendre l'aide alimentaire distribuée une fois par mois ou attendre l'ouverture du centre de santé. Ces Tchadiens sont chez eux, mais comme 120 000 déplacés autour du lac Tchad, ils ont fui les atrocités de Boko Haram il y a 2 ans déjà. Idriss Adam est un colosse de 40 ans. Il a quitté son village de Boularigui.
Boko Haram a attaqué le village et a mis le feu aux maisons. On est parti parce qu'ils ont égorgé plus d'une dizaine de personnes. Moi, j'ai perdu mon plus jeune frère. On s'est sauvé à travers les îles du lac.
Dans le camp voisin de Darnaïm, Saleh Youssouf a une histoire à peu près similaire. Ce berger nomade est revenu au Tchad après 30 ans d'absence. Il avait fui la DDS de Hissène Abré dans la région du Bata dans les années 90. Après avoir erré entre le Nigeria, le Niger et le Cameroun, Saleh Youssouf a dû rentrer au pays après avoir croisé la route de Boko Haram.
Boko Haram a bloqué notre passage et nous a dit, si vous passez, on vous tue. J'avais des chameaux, des chèvres, des bœufs, etc. Boko Haram est venu et m'a dit, si tu veux vivre normalement, viens avec nous. Sinon, tu dois tout abandonner et partir. C'est ce que j'ai fait, j'ai fui.
Ces Tchadiens et leurs familles, qu'ils soient déplacés ou retournés, n'espèrent pas forcément rentrer chez eux. Loin de tout service public et de la protection de l'État face aux djihadistes, ils ont trouvé dans les camps un semblant de normalité, notamment la sécurité et l'accès à l'école pour les plus jeunes. Écoutons Dimouya Swapébé, il est le préfet du département de Kaya.
Nous ne sommes pas très sûrs que tout le monde sera demandé à repartir parce que la présence de l'État faisait problème. Il y avait des difficultés dans l'accessibilité dans différents coins des îles du lac Tchad. Donc à ceux-là, nous avons l'intention de leur aménager leur site de déplacer là pour leur nouveau village. Et nous allons toujours appeler la communauté humanitaire à les appuyer là pour que ça soit leur nouvelle maison, leur nouveau village.
Les derniers combattants de Boko Haram sont retranchés dans les îles du lac Tchad ou l'État de Borno. Leur défaite probable prendra encore des mois, mais les déplacés de Bagassola ne souhaitent pas retourner dans leur village et vivre une nouvelle incertitude. Depuis Bagassola au Tchad, Nicolas Pinault, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Cameroun, de graves menaces pèsent sur les droits fonciers des autochtones et communautés locales, ce qui inquiète l'ONG camerounaise, le Centre pour l'environnement et le développement. Sur le terrain, de nombreux villages au Cameroun, situés en périphérie urbaine ou proches des grands projets d'investissement, sont de plus en plus sans terre. Et déjà, la colère des populations rurales monte, comme dans le village Meyo, où va passer l'autoroute qui desservira l'aéroport international de Yaoundé. Depuis le Cameroun, voici le reportage d'Emmanuel Juntap.
C'est mon père qui avait cédé ce terrain gratuitement pour qu'on vienne construire cette école, comme le centre de santé qui est en face, qui sera aussi détruit, vous vous rendez compte.
Le jeune chef du village, Meyo, ne décolère pas au vu des inscriptions sur les murs de l'école publique du village et du centre de santé qui annonce une opération imminente des démolitions des bâtiments. C'est que ici, l'un des 7 échangeurs et certaines voies de contournement de l'autoroute traversent ce village situé en périphérie urbaine de Yaoundé. Le chef de village lui-même n'a pas été épargné par le tracé de l'autoroute sur ses propres terres.
Ma maison est en plein dans l'échangeur. Lorsqu'il faut maintenant faire l'expertise, on ne va pas tenir compte que c'est une chefferie. La chefferie, lorsqu'elle est déplacée, vous comprenez aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont déplacées au niveau du village.
À moins d'un kilomètre du village, l'on aperçoit des engins en train de dévaster la forêt sous le chantier de l'autoroute en direction du village Meyo. Depuis lors, la vie a perdu son cours normal ici.
Ici, au village Moyou, toute activité s'est arrêtée. Si vous perdez un membre de la famille, là où l'étudiant de la République est passé, vous ne pouvez plus enterrer de corps, vous ne pouvez plus vivre, ni planter quoi que ce soit. Le peuple est asphyxié. Comment est-ce qu'il n'y aura pas des problèmes fonciers au Cameroun?
Dans plusieurs localités du Cameroun, de nombreux conflits sont nés autour du droit foncier des autochtones et communautés locales, ce qui justifie le lancement de la campagne dénommée Global Call Action. Elle sensibilise sur les enjeux du droit foncier communautaire. Le sujet est très préoccupant au Cameroun. Samuel Ngifo, secrétaire général du Centre pour l'environnement et le développement, qui a présenté la campagne sous le thème « Atlas des colères et résistances communautaires en Afrique ».
Au Cameroun, dans la périphérie urbaine, où on a des communautés rurales qui se trouvent envahies par la ville, et là, la gestion des terres et des ressources pose problème, parce qu'on a là la superposition de deux modes de gestion des terres. L'un qui est un mode traditionnel, où le droit coutumier est le droit qui s'applique, mais l'autre, c'est la terre avec les papiers qui interviennent. Un autre endroit où on trouve des conflits, c'est des endroits où on a une multitude d'investisseurs. Et dans notre pays, c'est le cas de Kribi.
Au Cameroun, justement, la plupart des experts en droit foncier entrevoient d'ici peu d'éventuels conflits entre les autochtones et les grands investisseurs sur les terres rurales. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui, mise en onde par Georges Léonard Sagnot. Wagner Robert était à la console. Présentation John Lyndon. Merci pour votre fidélité au programme de VOA Afrique. L'actualité en continu, c'est sur la page Facebook de VOA Afrique et sur voafrique.com. Excellente soirée à toutes et à tous.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin. Et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.